été avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Nicolas Brousse.
Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'appel sur l'actualité. Dans une demi-heure, nous ouvrons le débat sur ce que vous avez pu entendre hier matin dans les journaux de RFI. La Banque mondiale mobilise 57 milliards de dollars d'investissement pour l'Afrique subsaharienne dans les 3 années à venir. Et le G20, réuni le week-end dernier, fait du partenariat avec l'Afrique une priorité. C'est ce qu'a indiqué l'Allemagne, qui a pris la présidence du groupe. Un groupe qui représente 85% du PIB mondial et qui a donc a priori les moyens d'investir. Effet d'annonce ou véritable accélérateur du développement du continent. Votre avis nous intéresse bien sûr au 33 9 693 693 70. Vous nous contactez également via appel.actu@rfi.fr, via également Twitter et la page Facebook de l'émission. Rendez-vous dans une demi-heure en direct. En attendant, comme chaque jour, vos questions sur des sujets d'actualité que vous souhaitez que nous approfondissions. Nous allons commencer avec une question qui concerne la Colombie. Bonjour Apoulos.
Bonjour Nicolas Brousse.
En direct de Daloa en Côte d'Ivoire, bienvenue sur l'antenne.
Exactement, bonjour aux auditeurs de la radio mondiale RFI. Alors, le Sénat colombien a voté à la quasi-unanimité une réforme constitutionnelle pour la création d'une juridiction spéciale pour les crimes commis par les FARC et le gouvernement. Quelles sont les compétences de cette juridiction? Aussi, le 1er décembre 2016, les FARC proposait de déposer les armes dans un délai de 180 jours. Qu'a-t-il à 2 mois de la fin de ce délai? Qui supervise le dépôt des armes?
Merci pour ces questions, Apoulos. C'est Alexandra Pineda qui va vous répondre. Bonjour Alexandra.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Chef du service Amérique latine à RFI. Alors rappelons qu'un accord de paix a été signé entre les FARC et le gouvernement colombien, c'était en novembre dernier. On essaye de mettre fin à un conflit qui a duré plus de 50 ans. Et il y a donc cette justice de transition, ce que l'on appelle la JEP, et qui va peut-être permettre de, non pas amnistier les guérilleros, hein, qu'on soit bien clair, mais en tout cas de faire le ménage et de donner un peu la vérité sur ce qui s'est passé.
Oui, une partie des guérilleros sera bel et bien amnistiée, ceux qui ont commis uniquement des délits politiques. Mais cette justice spéciale pour la paix, tel est son nom, sera compétente pour juger les guérilleros coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais seront aussi justiciables les membres des forces armées coupables d'exactions, ainsi que les civils qui auraient une participation déterminante dans le conflit armé, par exemple les propriétaires terriens ou les chefs d'entreprise qui auraient financé ou collaboré avec les milices d'extrême droite. Les peines, alors, parce qu'il y a aussi dans cette justice transitionnelle des peines spéciales. Les peines pourront aller jusqu'à 20 ans de prison pour ceux qui seront jugés coupables et qui refuseront de reconnaître leurs actes et de dire la vérité. Par contre, ceux qui accepteront de dire toute la vérité, de reconnaître les faits qui leur seront reprochés, ceux-là bénéficieront de peines alternatives qui ne pourront pas dépasser 8 ans de restriction de liberté. Attention.
Alexandra, ça veut dire qu'on ne va pas forcément en prison.
Non, attention, on parle de restriction de liberté, pas de privation de liberté. Pourquoi? Parce que par exemple, les guérilleros qui seraient condamnés à ces peines restrictives de liberté, ils pourront purger leur peine à la campagne, dans des fermes ou dans des coopératives. Et les membres des forces armées qui seront eux aussi condamnés éventuellement, ils pourront purger leur peine dans les casernes. Donc, ce ne sera pas la prison forcément, la prison seulement pour ceux qui ne reconnaîtront pas les faits qui les sont reprochés et qui ne diront pas la vérité, puisqu'il s'agit d'un système, il se veut un système intégral de justice, de vérité, de réparation et de non-répétition. Et d'ailleurs, justement, parallèlement, cette justice spéciale prévoit la création d'une commission de la vérité et d'une unité de recherche des personnes disparues qui travailleront coude à coude avec la justice.
Donc on sent bien qu'on mise aussi sur la réconciliation. On dit qu'il y a à peu près 7000 guérilleros qui seraient concernés par cette justice et 7000 membres de la force publique, hein, c'est à peu près ça.
C'est à peu près ça, oui.
Alors, la deuxième question d'Apoulos, c'est où en est-on concernant le désarmement des FARC? J'ai l'impression qu'on a pris du retard.
On a pris du retard, en effet, 3 mois de retard par rapport au calendrier prévu, puisque le désarmement devait commencer le 1er décembre. Mais il a déjà commencé, le désarmement des FARC a commencé le 1er mars dernier, avec en effet 3 mois de retard. D'abord, parce que il y a eu la victoire du non au référendum du 4 octobre, si bien que le gouvernement et les FARC ont été obligés de retourner à la table de négociation de La Havane pour modifier l'accord initial, l'accord qui avait été signé en grande pompe le 26 septembre dernier à Carthagène. Donc la nouvelle mouture de l'accord, la version définitive, fut signée fin novembre, donc déjà avec 2 mois de retard. Et puis il y a eu aussi du retard dans les travaux d'aménagement des 26 zone de concentration de la guérilla, mais finalement les près de 7000 hommes et femmes des FARC ont pu s'y installer fin février, et le désarmement a donc commencé le 1er mars dernier, donc il est en cours actuellement, et malgré les retards le calendrier prévu sera maintenu, c'est-à-dire que fin mai, dans 2 mois, la commission de vérification de l'ONU qui se charge de vérifier le désarmement et le dépôt des armes, cette commission devrait être en mesure de retirer les gros conteneurs contenant les armes des FARC pour les envoyer à la fonderie.
Et l'ONU qui se dit plutôt optimiste sur ce processus?
L'ONU se dit optimiste, l'ONU a déjà commencé à faire l'inventaire des armes et à vérifier le dépôt des armes qui se fait progressivement, mais qui devrait être fini fin mai.
Merci beaucoup Alexandra Pineda, chef du service Amérique latine à RFI. Apoulos, est-ce qu'on a bien répondu à vos questions?
Dans tous les cas, je me réjouis de cette amabilité que vous m'accordez. Je suis un homme heureux. Merci Nicolas Brousse et vous et moi. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est calé comme calé Grégoire.
Merci. Si vous êtes un homme heureux, vous me rendez heureux également. Merci à Poulos, s'appelle sur l'actualité. C'est votre émission auditeur et auditrice de RFI. Nous allons le prouver une nouvelle fois avec Delvi qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour.
Bonjour monsieur Nicolas et bonjour à tous.
Bienvenue, on vous écoute.
Aux Pays-Bas, le parti d'extrême droite, le PVV, a été battu aux élections législatives par le parti du Premier ministre Mark Rutte. Quel gouvernement pourrait être mis en place et est-ce que le PVV aurait une place au sein de ce gouvernement?
On va donc répondre à ces questions. Alors là, j'espère que vous allez être aussi un homme heureux puisque c'est Christophe Paget qui nous fait l'amitié de venir au Studio 31. Bonjour Christophe.
Bonjour.
De retour des Pays-Bas où vous avez suivi pour nous ces élections. Alors, il est vrai que, comme certains, beaucoup peut-être le craignaient, l'extrême droite n'est pas sortie vainqueur de ce scrutin. Elle arrive tout de même en deuxième position. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Vous étiez donc aux Pays-Bas, Christophe, un peu plus de 17 millions d'habitants, majoritairement en Europe de l'Ouest. Les Pays-Bas, royaume du libéralisme et du vélo, je synthétise, mais sérieusement, un Néerlandais parcourt en moyenne 900 km à vélo par an. C'est une des particularités. Et l'autre, c'est peut-être que le résultat de cette élection permet à Mark Rutte de rester au pouvoir. Mais Christophe, donc première question, quel gouvernement pourra être mis en place, autour de quelle majorité? Est-ce que l'extrême droite pourrait avoir une place au sein de cette coalition?
Alors effectivement, maintenant que l'élection est terminée, la question de la coalition se pose. C'est une question importante, hein, puisqu'on peut se dire que selon la majorité que le Premier ministre Mark Rutte se choisit, sa politique peut être sensiblement différente. On sait déjà que la coalition va être difficile à former à cause de l'éparpillement des voix. Pas moins de 24 partis s'étaient présentés. Et le seul à récupérer plus de 20 sièges, c'est le parti de Mark Rutte. Donc, pour arriver à 76 sièges, la majorité dans l'Assemblée néerlandaise, qui en compte 150, il va falloir que le Premier ministre s'allie à au moins 3 partis, ce qui fait, en comptant le sien, 4, alors qu'il n'était que 2 dans la coalition précédente. Autre difficulté, la propension pour les alliés de Mark Rutte au sein des coalitions qu'il forme à perdre les élections après avoir été au gouvernement avec lui. Ses alliés en 2010, les chrétiens-démocrates, ainsi que Geert Wilders, l'extrême droite, qui le soutenait en dehors du gouvernement, se sont fait balayer en 2012. Et ses alliés, à partir de 2012, les travaillistes du PVDA, ont perdu un nombre historique de sièges la semaine dernière, passant de 38 à 9. J'en discutais avec un politologue néerlandais qui me disait « Est-ce que vous voulez vraiment entrer dans un gouvernement avec un parti qui, en gros, vous tue ?» Oui. Donc, difficile pour Rutte de former une coalition. Les gens se méfient.
Malgré tout, Christophe, il va bien falloir qu'il s'associe. Vers qui Mark Rutte devrait-il, pourrait-il se tourner ?
Alors, vu le sort des travaillistes, les partis de gauche devraient être difficiles à convaincre. On devrait donc se diriger vers une coalition de droite classique avec les chrétiens-démocrates et les sociaux-libéraux qui récupèrent chacun 19 sièges. En y ajoutant les 33 du VVD de Mark Rutte, on arrive à 71. Pour parvenir à 76, il va devoir prendre un petit parti, par exemple les protestants de l'Union chrétienne, ce qui lui donnerait une majorité très courte. Mais peut-être Rutte va-t-il se tourner vers les écologistes qui ont sensiblement augmenté leur score pour avoir une majorité plus confortable, mais eux sont résolument à gauche. Quoi qu'il arrive, comme souvent, le nouveau gouvernement néerlandais risque de ne pas être très stable avec un Geert Wilders arrivé deuxième en chef de l'opposition.
Alors voilà, il est deuxième, Geert Wilders, et pourtant il n'apparaît pas dans cette possible coalition.
Alors juste après les résultats, il a dit qu'il aimerait co-diriger le pays, il a donc tout de suite tenté de se placer, mais Mark Rutte, comme les autres partis, avait été très clair avant les élections, pas d'alliance avec l'extrême droite de Wilders, une décision prise après sa condamnation en justice en décembre dernier, pour avoir fait scander dans un meeting moins de Marocains par la foule.
Apoulos, vous aviez une autre question qui concerne notamment le parti d'extrême droite néerlandais. Delvy, pardon.
Jusqu'il y a peu de temps, les sondages donnaient le parti de Wilders vainqueur. Comment expliquer son score ?
Christophe, comment on peut répondre à Delvy le plus précisément possible ?
Alors déjà, avant le scrutin, le score de Wilders dans les sondages s'était peu à peu tassé. Il était passé en deuxième position alors qu'il avait caracolé en tête pendant des mois. Beaucoup de gens se décident en fait aux Pays-Bas peu avant le vote. Ce sont des gens qui traditionnellement ne sont pas très politisés et ne choisissent pas les extrêmes mais des partis centristes. Et donc, quand ils ont commencé à apparaître dans les sondages, ils ont mécaniquement rétrogradé Wilders en deuxième position. Et puis il y a eu la crise avec la Turquie. Amsterdam a refusé la venue de deux ministres qui voulaient faire campagne auprès de la population d'origine turque aux Pays-Bas pour le prochain référendum en Turquie, censé donner plus de pouvoir au président Erdogan. Et Geert Wilders a perdu cette bataille face à Mark Rutte. Il est resté dans l'invective et l'extrémisme alors que le Premier ministre peaufinait son image d'homme d'État responsable en se montrant ferme, mais en appelant à la désescalade avec la Turquie. Et il a expulsé une ministre voilée, une ministre turque, ce qui donnait des gages à l'extrême droite de Geert Wilders, du genre, lui parle de mettre dehors les musulmans, moi, je le fais. D'ailleurs, si Wilders n'a pas remporté les élections, c'est aussi parce que plusieurs autres partis ont droitisé leur programme jusqu'à Mark Rutte lui-même qui a appelé ceux qui ne partageaient pas les valeurs des Pays-Bas à les quitter. Prenant donc manifestement des votes à Wilders, d'où ce score de l'extrême droite moins important que prévu il y a encore quelques semaines, mais qui arrive quand même deuxième et qui progresse de 5 sièges par rapport à l'élection de 2012 et qui fait aussi progresser ses idées au sein des autres partis.
Christophe, je vous écoute très attentivement. Vous nous avez dit que les Néerlandais n'étaient pas forcément très politisés et pourtant, là, le taux de participation atteint les 81% en France notamment. C'est un taux qui pourrait faire rêver vu l'élection présidentielle qui s'annonce. Comment vous expliquez cet engouement ?
Alors les gens que j'ai vus le jour du vote avaient très envie de faire entendre leur voix, en partie à cause de la présence de Wilders, ceux qui ne voulaient pas de lui se sont déplacés, mais aussi pour défendre leurs propres idées au-delà de l'antiracisme. Dans le quartier turco-marocain assez pauvre d'Amsterdam, on m'a beaucoup parlé des frais de santé qui sont trop chers dans le pays. Beaucoup ont donc voté gauche ou extrême gauche. Et puis certains qui ne se déplaçaient peut-être pas en temps normal, sont allés voter pour ces nouveaux petits partis qui représentent, selon eux, précisément leurs idées. Par exemple, pour le parti Denk, un parti créé par deux Turcs, par les migrants, pour les migrants, qui a quand même récupéré 3 sièges au Parlement.
Christophe, on a beaucoup parlé, RFI, d'autres médias, d'un scrutin test pour l'Europe. Les auditeurs d'appel sur l'actualité l'ont noté. En quoi est-ce véritablement un test européen ?
Alors, c'est vrai que pour les élections fin avril, début mai en France et en septembre en Allemagne, on craint une montée de l'extrême droite. La chef du Front National, Marine Le Pen, a soutenu Geert Wilders, dont elle est proche au Parlement européen. Et François Hollande en France, Angela Merkel en Allemagne, jusqu'à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, se sont félicités du résultat de l'élection néerlandaise. selon eux, une victoire pour les valeurs européennes, d'ouverture, de respect de l'autre, de foi en l'avenir de l'Europe. Tout le monde a poussé un ouf de soulagement en voyant que Wilders n'était pas arrivé en première position et en espérant un effet d'entraînement dans leur propre pays. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Les modes de scrutin sont différents. En France, c'est une présidentielle à deux tours, pas une législative proportionnelle intégrale comme aux Pays-Bas. Et Marine Le Pen récupérerait bien plus de voix que Geert Wilders, qui au final n'a fait que 13%. Marine Le Pen, selon les derniers sondages, ferait deux fois plus. Autre situation encore en Allemagne, où le scrutin est à la fois proportionnel et majoritaire. Et surtout, l'extrême droite, l'AFD, est en chute libre depuis quelques mois. Manifestement, le thème des réfugiés ne marche plus autant que l'an dernier, car il y en a beaucoup moins qui arrivent en Allemagne en ce moment. Les pays autour ont fermé leurs frontières. Donc, logiquement, comme les Pays-Bas, c'était le premier scrutin de l'année en Europe et que l'extrême droite risquait d'arriver en tête, tout le monde le regardait de près. Mais les situations sont très différentes.
Christophe Paget, qui fut notre envoyé spécial aux Pays-Bas, de retour. Merci beaucoup, Delvy. Est-ce qu'on a bien répondu à vos questions ?
En tout cas, merci beaucoup à vous.
Merci à vous d'être fidèle à la Radio du Monde. On va retrouver Nicolas, que nous avions eu hier, mais nous n'avions pas pu lui répondre. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Vous nous appelez de Dangbo au Bénin et vous aviez une question sur la visite papale annulée en RDC.
Tout à fait. RFI, voilà, j'ai appris que le pape François a renoncé à sa visite à la République démocratique du Congo. Je voudrais savoir pourquoi il avait projeté cette visite et pourquoi encore plus il a renoncé à la visite dite. Comment la CENCO et l'État congolais ont réagi à ce renoncement?
Alors, pour vous répondre, Nicolas, nous allons rejoindre Thierry Vircoulon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'International Crisis Group pour l'Afrique centrale. Alors, effectivement, le pape François avait prévu cette visite en RDC. Finalement, il annule. Il a dit dans un entretien, un journal allemand, je le cite, qu'avec Kabila, ça ne va pas. C'est ça la raison?
Oui, c'est ça la raison. Il avait rencontré le président Kabila l'année passée, d'ailleurs, et l'Église catholique s'est investie en fait dans la crise politique en RDC comme médiateur de dernier recours, et elle a réussi la CENCO, enfin la réunion des évêques congolais, à jouer le médiateur entre l'opposition et le régime pour aboutir à un accord le 31 décembre de l'année passée pour faire en sorte qu'il y ait des élections cette année en RDC. Or, depuis cet accord le 31 décembre 2016, les discussions se sont enlisées de nouveau entre l'opposition et le gouvernement, et il y a maintenant très peu de chances qu'il y ait des élections cette année. En plus, la mort de Tshisekedi a relancé la compétition pour le pouvoir au sein de l'opposition, et par conséquent, l'opposition est maintenant très divisée, et le gouvernement en tire profit. Donc, je pense que cette annulation de visite est en fait la réponse du pape à la situation politique actuellement, et notamment au fait que le gouvernement fasse tout ce qui est possible pour frustrer les efforts de médiation de l'Église catholique. Et c'est comme ça, je pense, qu'il faut le comprendre. Alors, sur la réaction, le gouvernement, par le biais de son porte-parole, qui a toujours une rhétorique intéressante, a dit que finalement, si le pape ne venait pas, c'était pas un problème, ça n'empêcherait pas le Congo de tourner.
Donc ça n'est pas un désaveu pour les autorités congolaises que le pape annule cette visite alors qu'il était a priori très attendu?
C'est un désaveu. C'est la réponse du Vatican au comportement du pouvoir, ça c'est clair. C'est en effet, alors c'est dans ce sens-là, c'est un désaveu. Mais pour les autorités congolaises, elles considèrent que ce n'est pas un problème. Par contre, évidemment, la population aurait bien voulu voir le pape venir. Il s'est rendu en Centrafrique en 2015. Il doit aller au Sud-Soudan, etc. Donc, il visite un certain nombre de pays d'Afrique et à cause de la crise politique et de l'attitude du gouvernement...
Il ne pourra pas venir en RDC. Je suis obligé de vous couper, Thierry Vircoulon. Nous devons rendre l'antenne. Merci beaucoup d'avoir répondu à Nicolas.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Parce qu'un pays riche en infrastructures modernes.